Aristote, Métaphysique, livre 4, chapitre 5. La doctrine de Protagoras part du même principe que celle dont nous parlons. Et si l'une a ou n'a pas de fondement, l'autre est nécessairement dans le même cas. En effet, si tout ce que nous pensons, si tout ce qui nous apparaît est la vérité. Il faut bien que tout soit en même temps vrai et faux. La plupart des hommes pensent différemment les uns des autres, et ceux qui ne partagent pas nos opinions, nous les croyons dans l'erreur. La même chose est donc et n'est pas. Et s'il en est ainsi, il est nécessaire que tout ce qui apparaît soit la vérité, car ceux qui sont dans l'erreur et ceux qui disent vrai ont des opinions contraires. Si donc les choses sont comme nous venons de le dire, tous également diront la vérité. Il est donc évident que les deux systèmes en question partent de la même pensée. Toutefois, on ne doit pas combattre de la même manière tous ceux qui professent ces doctrines. Avec les uns, c'est la persuasion qu'il faut employer. Avec les autres, c'est la force du raisonnement. Chez tous ceux qui sont arrivés à cette conception par le doute, l'ignorance est facile à guérir. On n'a point alors d'arguments à réfuter. Il faut s'adresser à leur intelligence. Quant à ceux qui professent cette opinion par système, le remède à leur appliquer, c'est la réfutation, et par les sons qu'ils prononcent, et par les mots dont ils se servent. Chez ceux qui doutent, ce qui a fait naître cette opinion, c'est l'aspect des choses sensibles. D'abord, ils ont conçu l'opinion de l'existence simultanée dans les êtres, des contradictoires et des contraires, parce qu'ils voyaient la même chose produire les contraires. Et s'il n'est pas possible que le non-être devienne, il faut que dans l'objet préexiste l'être et le non-être. Tout est mêlé dans tout, comme dit Anaxagore, et avec lui Démocrite. Car, selon ce dernier, le vide et le plein se trouvent l'un comme l'autre dans chaque portion des êtres. Et le plein, c'est l'être, le vide. C'est le non-être. À ceux qui tirent ces conclusions, nous dirons que sous un point de vue, leur assertion est juste, mais que, sous un autre point de vue, ils sont dans l'erreur. L'être se prend dans un double sens. Il se peut donc, d'une certaine façon, que le non-être produise quelque chose, et d'une autre façon, cela est impossible. Il se peut que le même objet soit en même temps être et non-être, mais non pas sous le même point de vue de l'être. En puissance, il est possible que la même chose soit les contraires, mais en acte, cela est impossible. D'ailleurs, nous réclamerons auprès de ceux dont il s'agit, pour la conception de l'existence dans le monde d'une autre substance, qu'il n'est susceptible ni de mouvement, ni de destruction, ni de naissance. C'est encore l'aspect des objets sensibles qui a fait naître chez quelques-uns l'opinion de la vérité de ce qui paraît. Suivant cela, ce n'est pas au grand nombre, ce n'est pas non plus au petit nombre qu'il appartient de juger de la vérité. Si nous goûtons de la même chose, elle paraîtra douce aux uns, amère aux autres. De sorte que, si tout le monde était malade, ou que tout le monde eût perdu la raison, et que deux ou trois seulement fussent en bonne santé ou possédassent leur bon sens, ces derniers seraient alors les malades et les insensés, et non pas les autres. D'ailleurs, les choses paraissent à la plupart des animaux le contraire de ce qu'elles nous paraissent, Et chaque individu, malgré son identité, ne juge pas toujours de la même manière par les sens. Quelles sensations sont donc vraies ? Quelles sensations sont donc fausses ? C'est ce qu'on ne saurait voir. Ceci n'est en rien plus vrai que cela. Tout est également vrai. Aussi, Démocrite prétend-il ou qu'il n'y a rien de vrai ou que nous ne connaissons pas la vérité. En un mot, comme dans son système, la sensation constitue la pensée et qu'elle est une modification du sujet, ce qui paraît au sens est nécessairement, selon lui, la vérité. Tels sont les motifs pour lesquels Empédocle, Démocrite, et je puis dire tous les autres, se sont soumis à de pareilles opinions. Empédocle affirme qu'un changement dans notre manière d'être change aussi notre pensée. La pensée est chez les hommes en raison de l'impression du moment. Et dans un autre passage, il dit « C'est toujours en raison des changements qui s'opèrent dans les hommes qu'il y a changement dans leur pensée. » Parménide s'exprime de la même manière. Telle est, pour chaque homme, l'organisation de ses membres flexibles. Telle est aussi l'intelligence de chaque homme. Car c'est la nature des membres qui constitue la pensée dans les hommes, et dans tous et dans chacun. Chaque degré de la sensation est un degré de la pensée. On rapporte encore une sentence d'Anaxagore à quelques-uns de ses amis. Les êtres sont pour vous ce que vous les concevrez. On prétend même qu'Homère semble avoir une opinion analogue parce qu'il représente Hector délirant par l'effet de sa blessure, étendu, la raison bouleversée. Comme s'il pensait que les hommes en délire ont aussi la raison, mais que cette raison n'est plus la même. Évidemment, si le délire et la raison sont la raison l'un et l'autre, les êtres, à leur tour, sont à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. La conséquence qui sort d'un pareil principe est réellement affligeante. Si telles sont en effet les opinions des hommes, qui ont le mieux vu toute la vérité possible, et ces hommes sont ceux qui cherchent la vérité avec ardeur et qui l'aiment. Si telles sont les doctrines qu'ils professent sur la vérité, comment aborder sans découragement les problèmes philosophiques ? Chercher la vérité ne serait-ce pas vouloir atteindre des ombres qui s'envolent ? La cause de l'opinion de ces philosophes, c'est que, considérant la vérité dans les êtres, ils n'ont admis comme être que les choses sensibles. Or, ce qui se trouve en elles, c'est surtout l'indéterminé, et cette sorte d'être dont nous avons parlé plus haut. Aussi, l'opinion qu'ils professent est-elle vraisemblable ? Mais ils ne disent pas la vérité. Cette appréciation est plus équitable qu'une critique comme celle qu'Épicarme fit de Xénophane. Enfin, comme il voyait que toute la nature sensible est dans un perpétuel mouvement et qu'on ne peut juger de la vérité de ce qui change, ils pensèrent qu'on ne peut rien déterminer de vrai sur ce qui change sans cesse dans tous les sens. De ces considérations naquirent d'autres doctrines poussées plus loin encore. Telle est celle des philosophes qui se disent de l'école d'Héraclite. Telle est celle de Cratyle, qui allait jusqu'à penser qu'il ne faut rien dire. Il se contentait de remuer le doigt. Il faisait un crime à Héraclite d'avoir dit qu'on ne peut pas s'embarquer deux fois sur le même fleuve. Selon lui, on ne peut pas même le faire une seule fois. Nous conviendrons avec les partisans de ce système que l'objet qui change leur donne, alors qu'il change, une juste raison de ne pas croire à son existence. Encore peut-on discuter sur ce point. Ce qui cesse d'être une chose participe encore à ce qu'il cesse d'être, et nécessairement participe déjà à ce qu'il devient. En général, si un être périt, il y aura encore en lui de l'être. Et s'il devient, il faut bien que ce d'où il sort et que ce qui le fait devenir est une existence et que cela n'aille pas à l'infini. Mais laissons de côté ces considérations et notons ceci, que changer sous le rapport de la quantité et changer sous le rapport de la qualité, ce n'est pas la même chose. Les êtres, nous l'accordons, sous le rapport de la quantité, ne persistent pas. Mais c'est par la forme que nous connaissons ce qui est. Nous pouvons faire un autre reproche aux partisans de ces doctrines. Ces faits qui sont observés, ils ne les voyaient que dans le petit nombre des objets sensibles. Pourquoi donc ont-ils appliqué leur système au monde tout entier ? Cet espace qui nous environne, le lieu des objets sensibles, le seul qui soit soumis aux lois de la destruction et de la production, n'est qu'une portion nulle, pour ainsi dire, de l'univers. De sorte qu'il eût été plus juste d'absoudre ce bas monde en faveur du monde céleste que de condamner le monde céleste à cause du premier. On voit enfin que nous pouvons ici répéter une observation que nous avons déjà faite. Pour réfuter ces philosophes, on n'a qu'à leur démontrer qu'il existe une nature immobile et à les convaincre de cette existence. Et puis, la conséquence de ce système, c'est que prétendre que l'être et le non-être existent simultanément, c'est admettre l'éternel repos plutôt que le mouvement éternel. Il n'y a rien, en effet, en quoi se puisse transformer les êtres puisque tout est dans tout. Pour ce qui est de la vérité, plusieurs raisons nous prouvent que toutes les apparences ne sont pas vraies. Et d'abord, la sensation même ne nous trompe pas sur son objet propre. Mais l'idée sensible n'est pas la même chose que la sensation. Ensuite, on peut s'étonner à juste titre que ceux dont nous parlons restent dans le doute sur des questions comme celle-ci. Les grandeurs ainsi que les couleurs sont-elles réellement telles qu'elles apparaissent à ceux qui sont éloignés ou telles que les voient ceux qui en sont près ? Sont-elles réellement telles qu'elles apparaissent aux hommes bien portants ou telles que les voient les malades ? La pesanteur est-elle ce qui paraît pesant aux hommes de faible complexion ou bien ce qu'il est pour les hommes robustes ? La vérité est-elle ce qu'on voit en dormant ou ce qu'on voit pendant la veille ? Personne, évidemment, ne croit qu'il y ait sur ces points la plus légère incertitude. Y a-t-il quelqu'un, s'il rêvait qu'il est dans Athènes alors qu'il serait en Afrique, qui s'imagina sur la foi de ce rêve de se rendre à l'Odéon ? D'ailleurs, et c'est Platon qui fait cette remarque, l'opinion de l'ignorant n'a certainement pas une autorité égale à celle du médecin quand il s'agit de savoir, par exemple, si le malade recouvrera ou ne recouvrera pas la santé. Enfin, le témoignage d'un sens sur un objet qui lui est étranger, ou même qui se rapproche de son objet propre, n'a pas une valeur égale à son témoignage sur son objet propre, sur l'objet qui est réellement le sien. C'est la vue qui juge des couleurs et non le goût. C'est le goût qui juge des saveurs et non la vue. Jamais aucun de ces sens, dans le même temps, quand on l'applique au même objet, ne nous dit que cet objet a et n'a pas à la fois telle propriété. Je vais plus loin encore. On ne peut pas contester le témoignage d'un sens parce qu'en étant différent, il est en désaccord avec lui-même. Il faut adresser le reproche à l'être qui éprouve la sensation. Le même vin, par exemple, soit parce qu'il aura changé lui-même, soit parce que notre corps aura changé, nous paraîtra, il est vrai, doux dans un instant, le contraire dans un autre. Mais ce n'est pas le doux qui cesse d'être ce qu'il est. Jamais il ne dépouille sa propriété essentielle. Il est toujours vrai qu'une saveur douce est douce. Et ce qui sera une saveur douce aura nécessairement pour nous ce caractère essentiel. Or, c'est cette nécessité que détruisent les systèmes en question. De même qu'il nie toute essence, il nie aussi qu'il n'y ait rien de nécessaire, puisque ce qui est nécessaire ne saurait être à la fois d'une manière et d'une autre. De sorte que, s'il y a quelque chose qui soit nécessaire, les contraires ne sauraient exister à la fois dans le même être. En général, s'il n'y avait que le sensible, il n'y aurait rien. N'y ayant rien, sans l'existence des êtres animés qui pût percevoir le sensible. Et peut-être alors serait-il vrai de dire qu'il n'y a ni objet sensible ni sensation, car tout cela est dans l'hypothèse, une modification de l'être sentant. Mais que les objets qui causent la sensation n'existent pas, même indépendamment de toute sensation, c'est ce qui est impossible. La sensation n'est pas sensation d'elle-même, mais il y a un autre objet en dehors de la sensation et dont l'existence est nécessairement antérieure à la sensation. Car le moteur est, de sa nature, antérieur à l'objet en mouvement. Et, admettons même que dans le cas dont il s'agit, l'existence des deux termes est corrélative, notre proposition n'en subsiste pas moins.